Salut, je m'appelle Joëlle et j'anime le podcast Un instant innovant. Et je vous présente tout de suite ma co-animatrice pour cet épisode, Sarah. Allô, Sarah.
Allô, Joëlle.
Comment ça va?
Ça va bien, puis là, je pense qu'on va le mettre en contexte tout de suite. Vas-y. Je suis vraiment énervée aujourd'hui parce que là, on reçoit quelqu'un de très spécial dans mon cœur. C'est mon beau-père qu'on reçoit à l'émission aujourd'hui, puis on a déjà dit, en plus, c'est mon conjoint qui fait le son. Donc, Joël, tu es dans ma famille aujourd'hui, donc quand on parle de blurring, là, on est
en plein dedans dans ton cas en ce moment.
Oui.
Le professionnel et le personnel se mélangent parfaitement pour cet épisode.
Tout à fait.
En plus, on enregistre chez vous.
Ben oui. c'est toi qui est dans notre dîner de famille, finalement.
Merci. Bienvenue, Joël. Merci de m'accueillir dans votre dîner de famille. C'est super. Alors, ben, c'est une belle mise en contexte pour introduire notre invité pour ce podcast. Alors, Pierre, bonjour.
Bonjour.
Pierre Leduc.
Bonjour. Moi aussi, je suis impressionné, là. Ben, pas impressionné par toi, puis tout ça, là, puis vous voir rencontrer ici.
C'est
là.
Le fun, hein?
Fait que rassure-toi, t'es pas toute seule, hein, d'impressionner.
Ah, mais je vous rassure, tous les trois, ça va bien aller.
Nous, on a une fébrilité peut-être supplémentaire encore à cause de ça. Fait que, mais t'allais présenter Pierre, parce que c'est pas juste mon beau-père ou le père de mon conjoint, c'est aussi quelqu'un qui travaille dans le même domaine que nous.
Oui, consultant en management, hein? Est-ce qu'on dit comme
ça? Exactement, oui.
Oui, qui s'intéresse à plein de sujets qui me passionnent énormément. Donc, on va avoir plein d'occasions d'en discuter. Ça va être super intéressant. Peut-être juste pour placer un petit peu ton parcours, ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc, tu as été quand même un bon bout de temps en entreprise, travaillé dans plusieurs organisations, dans des postes d'exécutifs. Pour décider par la suite d'aller accompagner plusieurs organisations à la fois en tant que consultant. Pourquoi faire ce choix-là, d'ailleurs?
Bien, ça a été plus ou moins un choix parce qu'en réalité, ce qui s'est produit, c'est que j'ai fait 25 ans de carrière en grande entreprise dans des postes seniors. Puis le concours des circonstances a fait qu'à un moment donné, j'ai été pris dans une réorganisation. Je me suis retrouvé sans emploi. J'avais travaillé en début de carrière dans le domaine de la recherche marketing. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai eu la chance d'aller travailler comme consultant dans une firme de recherche. Puis je me suis joint à la firme de recherche où j'ai pris des mandats en conseil. Puis d'une chose à l'autre, d'autres opportunités se sont présentées. Une boîte de conseil en management m'a approché pour que je me joigne à eux. Fait que c'était pas vraiment au départ un choix, c'était un concours de circonstances. J'ai perdu ma job. Une opportunité s'est présentée dans un domaine auquel je n'avais pas pensé auparavant. Puis après ça, ben d'une chose à l'autre, ça s'est tout enclenché. Puis maintenant, ça va faire bientôt 20 ans que je travaille avec des PME dans le domaine du conseil en management. Et ben voilà.
Ah, ben super intéressant. Des fois, comme quoi, hein, des événements de vie que sur le coup, on perçoit pas nécessairement comme étant ce qu'on s'attendait, puis qui nous amène sur une meilleure voie, puis à faire autre chose qu'on apprécie beaucoup. Fait que conseil en management, depuis les dernières années, tu t'es intéressé beaucoup à tout ce qui touche la culture, particulièrement la culture de bienveillance. Donc, c'est un peu le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. On va en parler un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça? Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles sur cette thématique-là?
C'est plutôt récent. Je dirais que ça fait 2-3 ans que je m'intéresse à ça activement. Au départ, je faisais du conseil traditionnel. Tu sais, je faisais des plans d'affaires, on faisait des diagnostics d'entreprise, on faisait des planifications stratégiques avec les clients. On a vu, là, il y a maintenant presque 10 ans ou même un peu plus, on a vu que la pénurie de main-d'œuvre s'est mise à générer des problèmes importants. C'est devenu, en quelque sorte, dans bien des cas, le problème numéro 1 de l'entreprise. Alors qu'il y a 20 ans, quand je faisais du management, du conseil en management, les problèmes de mes clients, c'était essentiellement des problèmes de cash flow, de liquidité. Les PME avaient des problèmes de liquidité.
C'est très opérationnel, hein?
Exactement. Mais depuis maintenant, puis je dis 10 ans, là, je ne sais pas quand exactement, mais c'est des problèmes de recrutement. En parallèle avec ça, en m'intéressant au phénomène de la rétention, puis le phénomène de l'attraction, je me suis rendu compte, en tout cas, j'ai pensé qu'une des clés portait sur l'engagement. Puis pour comprendre l'engagement, bien, il fallait comprendre la culture organisationnelle. Puis de là, à force de lire sur le sujet, ça m'a enthousiasmé, ça m'a passionné. J'ai développé un modèle que j'appelle la culture bienveillante. Et je fais des conférences, puis je m'intéresse à ça. Je fais encore de la planification stratégique, je fais encore des plans d'affaires, je fais encore des activités de diagnostic d'entreprise. Mais je le fais maintenant presque toujours avec le filtre, ou comme j'aime à le répéter, là, fondamentalement, ce que je dis, la principale force motrice d'entreprise, c'est le facteur humain. Et le principal levier de croissance puis de développement de l'organisation, c'est sa culture organisationnelle.
Mm-hmm.
Là, c'est rendu ma passion.
J'allais juste préciser, tu dis que tu as développé un modèle autour de la culture de bienveillance, mais c'est aussi dans la société, quelque chose dans la société des affaires, là, qu'on entend de plus en plus parler d'avoir une culture de bienveillance ou de bien traiter les gens avec qui on travaille. Il y a des bouleversements sociaux là, qui sont en train de se passer. J'imagine que tu le remarques.
Ah oui,
beaucoup,
j'ai pas inventé la bienveillance, là. Non. J'ai pas inventé le concept comme tel. C'est juste que pour travailler avec des organisations, pour essayer de comprendre leur culture organisationnelle, qui est un concept des fois c'est un peu confus, la culture organisationnelle, j'ai développé une espèce de grille, une espèce de modèle où on regarde différents éléments de cette culture-là et on regarde comment, à l'intérieur de celle-ci, la bienveillance s'inscrit.
Pour que ça devienne concret.
Fait que c'est ça le modèle. Non, j'ai pas inventé bienveillance.
Et qu'est-ce que tu mesures justement quand tu veux faire cette évaluation-là de la culture? C'est quoi les différents?
C'est très, très individuel parce que c'est très, très vaste. Au départ, ce qu'on regarde, c'est l'existence de, on va rentrer dans le modèle lui-même, là. Mais fondamentalement, ce qui est à la base du modèle, c'est la raison d'être. Les entreprises aujourd'hui, les entreprises qui ont du succès, qui ont plus de chances de grandir, sont des entreprises qui ont des raisons d'être fortes. Alors que il y a quelques années, les gens travaillaient pour bâtir de la valeur pour les actionnaires, de plus en plus, on essaie de bâtir de la valeur pour la société.
Mm-hmm.
Les entreprises se trouvent une raison d'être. Ça s'apparente un peu à la mission, là, c'est un peu semblable, c'est pas tout à fait la même chose. Mais une raison d'être qui est altruiste, une raison d'être qui est inspirante, une raison d'être qui donne un sens au travail. Les gens qui vont travailler le matin, qui ont sens, on a le sentiment que ce qu'ils font a un sens, qu'ils contribuent à quelque chose, qu'ils se réalisent, etc., sont plus engagés. Alors, au départ, c'est la raison d'être. Ensuite, ce sont les valeurs. Les valeurs qu'on retrouve dans l'entreprise, la valeur des collaborateurs et des collaboratrices d'entreprise. Alors, ça, c'est les deux assises. À partir de là, dans l'organisation, on développe une certaine forme de gouvernance. On développe des programmes, des bénéfices, des avantages, des politiques qui sont conséquents à ces valeurs-là et qui sont vécus dans l'organisation. Et finalement, dans un troisième temps, on regarde les comportements. Parce que tout ça, ça doit la façon, la manifestation la plus évidente d'une culture, c'est les comportements.
Ça s'exprime avec les comportements.
Et donc, c'est le troisième aspect. Donc là, vous venez d'avoir, en deux minutes, le modèle.
Un crash course. Très efficace, très clair.
Tout à fait, super clair. Ah, mais moi, je trouve ça super important de peut-être qu'on prenne le temps de les décortiquer quand même, les différents éléments, parce que chacun a une importance quand même assez capitale dans la culture de bienveillance. Moi, la raison d'être, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément aussi comme sujet, la raison d'être organisationnelle. Puis on a beaucoup discuté aussi dans les dernières années aussi la raison d'être de l'entrepreneur aussi. Est-ce que selon toi, il doit y avoir un lien entre les deux? Est-ce que il faut absolument que la raison d'être de l'entrepreneur soit identifiée? Est-ce que c'est important pour l'entrepreneur ou le dirigeant de l'avoir identifié, sa propre raison d'être, et qu'elle soit alignée avec celle de l'organisation?
Mais moi, je pense que certainement dans les petites entreprises, la raison d'être, ça doit venir de la direction du fondateur ou du dirigeant. La raison d'être, le plus souvent, là, c'est ce qui l'a animé cette personne-là à se lancer en affaires. Ça peut être la passion pour un métier, mais ça peut être aussi le dire, je vais rendre un service, je vais mettre au service d'une communauté, je vais donner un service qui n'existe pas, je vais être utile. Quand on fait l'analyse, la raison d'être, généralement, la raison d'être, c'est pas quelque chose qu'on va chercher parmi les employés. C'est quelque chose dont on discute, qu'on essaie d'identifier avec la direction. C'est de là que ça part. Contrairement aux valeurs, alors que les valeurs, elles, on va aller chercher, c'est les employés, bien souvent, qui vont nous les communiquer. C'est sûr, eux, c'est les collaborateurs, les collaboratrices qui vont nous dire les valeurs qu'elles vivent à l'intérieur de l'organisation. Mais je pense que je vois ça un peu comme toi, là. La raison d'être, là, ça vient de la direction, puis dans certains cas, ça vient du fondateur ou de la fondatrice de l'organisation. Il faut que ça vienne de là. Parce que c'est la passion, c'est ce qui l'amène, c'est ce qui l'allume, c'est ce qui donne une raison d'être. Voilà.
Puis dans les dernières années, est-ce que tu sentais qu'il y avait une plus grande ouverture de ces dirigeants-là à avoir une raison d'être qui est davantage socialement positive, d'avoir être axé davantage sur avoir un impact positif au niveau social, au niveau environnemental? Nous, on le sent, on a l'impression qu'il y a un courant qui s'installe. Mmh. Puis là, on se pose la question, est-ce que c'est juste parce qu'on s'y intéresse? Puis là, ben, on a un peu l'effet de... d'aller un peu lire ou s'informer aux sources qui nous plaisent déjà, puis est-ce que c'est une fausse impression ou au contraire, c'est vraiment un vrai courant qui s'installe puis qui va peut-être prendre forme de façon plus concrète, on l'espère.
Et moi, je suis convaincu que c'est un courant. Mm. Je pense que ce courant-là, puis d'ailleurs, il est animé du fait de la présence de cette génération qu'on appelle les milléniaux qui se joignent à nous. Aujourd'hui, il y a presque 50% de la main-d'œuvre maintenant qui est composée de milléniaux. Et ces gens-là sont en train, non seulement ils ne sont pas juste de main-d'œuvre, ils sont en train de devenir des dirigeants, ils créent des entreprises, ils dirigent des entreprises. Et pour eux, d'avoir un sens, que le travail ait un sens pour qu'ils s'engagent dans l'organisation, bien, ça met une pression sur l'organisation nécessairement. Mmh. Puis plus que ça, moi je pense qu'eux autres, ils ont une influence sur les générations antérieures. Même jusqu'aux baby boomers, mm-hmm. dont je fais partie. Ils nous impactent, mais ils nous influencent. Fait que, je suis convaincu que c'est un mouvement important. D'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle Aaron Hirsch qui a écrit un livre qui s'appelle The Purpose Economy, qui essaie de démontrer que les entreprises qui ont des raisons d'être fortes, des entreprises qui ont une raison d'être qui est altruiste, qui est inspirante, où il y a une contribution à l'individu, à la société, sont les entreprises qui ont le plus de succès puis qui ont le plus de chances de grandir puis se développer dans l'avenir.
Durablement.
Durablement, mm-hmm. exactement. Mm-hmm. Parce que les entreprises ont été appelées à vivre toutes sortes de transformations. Là, quand l'intelligence artificielle va se mettre là-dedans puis tout le reste, on va tout bousculer encore une fois. Les entreprises
c'est qui ont déjà commencé, là, c'est ça.
Fait que là, tu sais, t'as tant de raisons d'être forte, mais ça te donne une ligne directrice à laquelle tu t'accroches, ce qui permet de t'adapter.
Tu semblais dire que c'était plus porté par les milléniaux ou les plus jeunes, puis que ça avait de l'influence sur les autres générations. J'ai tendance à être d'accord du fait que souvent les plus jeunes ont été peut-être moins teintés par ce qui s'est fait avant ou ont moins des habitudes. Par contre, si on regarde juste là aujourd'hui autour de la table, dans la Joël, je pense pas que tu fasses partie de la génération X. Pierre, dans
pauvre
les baby boomers.
Ah, je sais.
Pauvre génération.
Les sandwich.
Génération non, c'est vraiment ça, la génération oubliée.
Mais c'est correct. Je considère que je m'en suis quand même relativement bien sortie dans c'est la vie, pire. Malgré tout. comme Caroline dirait, ce qui nous tue pas nous rend plus forts.
Tout à fait.
Alors voilà. Ça a été moins facile au départ, mais on s'en sort quand même très bien aujourd'hui.
Puis mais sans blague, je pense que c'est un bel exemple où, là, en ce moment, à table, je suis avec deux entrepreneurs qui portent ça, tu sais, d'aider les gens à trouver leur raison d'être, de transformer les organisations. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une sagesse aussi dans les autres générations qui font en sorte que ça peut peut-être porter le mouvement plus fort. Puis je me demandais, toi, est-ce que comme individu, tu as l'impression que c'est un peu ça qui t'a amené aussi à focusser sur la culture de bienveillance? Est-ce que toi, comme entrepreneur ou comme individu, ça te donne une raison d'être plus forte au service que tu rends? Ou?
Oui, écoute, absolument. Tu sais, c'est certain que mon intérêt est en partie a été suscité par un besoin que je voyais puis la tendance que j'observais. Mais honnêtement, là, personnellement aussi, ça m'a transformé. Là. Ça m'a amené moi aussi à me remettre en question. À me remettre en question sur la façon de faire les choses, la façon d'entrer en relation avec les gens, la façon de voir le relationnel dans l'organisation, puis toutes les notions qu'on aime à répéter, la collaboration, l'écoute, le coaching, etc. Absolument, ça a un impact sur moi, c'est évident. Et lire des livres comme j'en lis sur la bienveillance, j'espère que ça va avoir un effet à un moment donné sur moi-même.
Je trouve ça intéressant cette discussion-là par rapport aux différences générationnelles. Puis, tu sais, on parle de courant un peu de notre temps. On parlait beaucoup aussi des 500 000 personnes qui étaient dans la rue il n'y a pas si longtemps pour la marche
dont
pour l'environnement.
Charles et moi, je tiens à le dire.
Oui, merci de nous avoir représentés. D'ailleurs, j'aurais tellement aimé jamais pouvoir y être. Malheureusement, j'avais un engagement. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup dit, c'est les jeunes qui sont dans la rue. Pourtant, il y avait un peu de toutes les générations. Puis je pense qu'il y a beaucoup de générations peut-être plus vieilles que les milléniaux. C'est mon cas. Mais moi, j'ai une fille de 12 ans. Je pense à son avenir à elle. Donc, je pense que le courant est peut-être porté par la voix forte des milléniaux, puis parce que...
Et même des plus jeunes.
Et des plus jeunes, hein, parce que les aides maintenant aussi qui ont commencé à intégrer le marché du travail, puis on le voit que c'est des choses qui leur tiennent à cœur. Mais ce n'est pas non plus que l'effet des milléniaux. Je pense que il y a plusieurs personnes dans toutes les générations qui s'intéressent à faire mieux. À avoir une société plus juste, à être davantage conscient de ce qu'on peut faire de plus pour l'organisation. Puis quand on parle de ça, j'ai tout le temps tendance à revenir un peu à la pyramide de Maslow parce que on dit souvent que on va atteindre le top de la pyramide quand on est rendu à l'actualisation de soi. Puis Maslow a rajouté un peu plus tard dans sa, on en a parlé dans un des précédents épisodes, a rajouté un étage de plus à sa pyramide qui est davantage au niveau de la transcendance. Donc, à partir du moment où tous nos besoins sont comblés, même ceux de l'actualisation de soi, ben on se rend compte que finalement, on est encore plus heureux à donner davantage aux autres. On se tourne vers les autres, on va plus penser au « nous » au lieu de penser au « je ». Puis c'est là qu'on, finalement, on a besoin d'aller chercher davantage de sens dans notre travail, dans notre vie, en redonnant puis en ayant un impact positif sur notre société, notre entourage. Fait que je pense que ça, c'est pas une question nécessairement de génération, c'est plus une question de parcours de vie, hein, puis...
Oui, c'est bien intéressant. Moi, il y a peut-être le fait aussi que toutes les générations actuellement vivent une forme d'anxiété par rapport à tout ce qui se passe de façon générale dans la société. De
l'éco-anxiété et puis tout ça.
L'éco-anxiété, mais aussi le fait, par exemple, on voit le rythme avec lequel les changements technologiques nous arrivent, les rythmes auxquels, bien souvent, les individus sont pas capables, le temps que ça prend pour s'ajuster à une génération de changements technologiques, on passe à la suivante. On le voit aussi au niveau culturel. On le voit de plus en plus, une grande mixité culturelle dans nos sociétés, dans nos organisations. On voit une société où il y a, en 1990, il y avait 9% des travailleurs au Québec qui avaient des diplômes universitaires. C'est maintenant rendu au, près de 25%. Puis j'imagine chez les milléniaux, c'est probablement plus que 25%. On a la globalisation, bien sûr, fait que maintenant, on travaille, on fréquente, on a des amis partout à travers le monde, on voyage plus facilement qu'avant. Ça crée une certaine forme d'anxiété, cette affaire-là. On n'est plus dans des modèles comme quand j'étais plus jeune, des modèles où c'était relativement stable, l'univers était connu, mais il était fermé. T'sais. Je me plais à le dire, puis Charles, notre ami ici, pourra en témoigner. Quand j'étais tout petit, moi, chez moi, là, à Noël, là, il y avait juste des Blancs francophones catholiques au party de Noël. Mm. Maintenant, on va avoir des gens qui parlent arabe, des gens qui parlent laotien, des gens qui parlent anglais, des gens qui parlent...
C'est la diversité. Hein.
Et tout ça fait qu'actuellement, là, on a plus les mêmes balises. Mm. Puis tu as probablement raison que ça nous amène à devenir plus solidaires ou avoir un réflexe de solidarité. Et ça a probablement un effet, tout ça. Fait que c'est pas, pour rejoindre ce que tu disais il y a une minute, c'est pas le fait d'une seule génération. C'est probablement en bonne partie le fait de tout un environnement, de tout un contexte.
Puis, on sent aussi un re-questionnement de plein de choses, justement, qu'on a pris un peu pour acquis, tu sais, de la façon qu'on vit, l'individualisme aussi qu'on a commencé à un peu trop, je pense, mettre de l'avant dans nos vies en général. Puis là, on sent que les gens en souffrent un petit peu. Puis on revient à un besoin de communauté, exactement, de revenir à des plus petites communautés, un peu plus tissées, serrées. Il y en a qui vont former ça avec leurs voisins. On voit l'émergence des éco-villages dans certaines régions du monde où les gens vont davantage aller chercher cette dynamique-là de communauté où on supporte davantage, on parle à nos voisins au lieu de s'ignorer comme on vit un peu plus souvent en ville et tout ça. Donc, j'ai l'impression que ça se transmet aussi dans nos organisations, ce besoin-là. Puis ça fait en sorte que on s'en va vers une culture qui se transforme. On veut davantage être dans ce cocon-là où on prend soin des gens davantage, puis moins dans l'individualisme, davantage dans la communauté. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Hein? Ben écoute, c'est super que c'est bien beau. La réflexion qui me venait, puis je partage totalement ce que tu viens de dire, puis en même temps, il ne faut pas perdre de vue que il ne faut pas vouloir de la vertu pour la vertu. Là, c'est bien le fun, on est tous solidaires. Il faut comprendre que tout ça dans mon esprit, puis je sais que tu partages ce point de vue-là, c'est aussi dans le but de susciter de l'engagement de la part de nos collaborateurs, de façon éventuellement à susciter, bien sûr, de la rétention, de la productivité, de la créativité. Au bout de ligne, tout ça, il faut que ça donne quelque chose
de
sain pour l'organisation,
exact.
Autre que juste le bien-être collectif, puis
absolument.
Tout le kumbaya de la gang, puis c'est
absolument.
Le fun. T'sais.
C'est pour ça qu'on parle pas de bonheur au travail, seulement pour l'objectif ultime de bonheur au travail, puis qu'on parle plutôt d'engagement. Parce que quand on a des employés engagés, on a des employés qui sont heureux au travail. C'est déjà une belle finalité, mais c'est pas la fin point. L'objectif aussi derrière tout ça, puis c'est un objectif qui est légitime quand on est dans une organisation, que ça soit une organisation à but lucratif ou non lucratif, c'est de faire en sorte que les gens vont donner leur plein potentiel, qu'ils vont contribuer pleinement à l'atteinte des objectifs de l'organisation, puis ultimement que les organisations soient rentables quand c'est des organisations privées ou qu'elles soient pleinement productives et capables de redonner davantage dans les organisations
c'est,
non lucratives.
C'est intéressant ce point de vue-là, puis j'ai l'impression que ça peut être une zone grise ou en tout cas quelque chose à faire attention, c'est... Il faut faire attention, tu parlais, c'est un autre épisode, mais on parlait de radar à bullshit. Là, les gens ont ça très aiguisé. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas le faire pour des raisons financières. Ça ne peut pas être
faut que ça soit
un
sincère.
Moyen pour servir des intérêts financiers. Sinon, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas ou en tout cas, ça fait son temps
tout à fait.
De se servir de la condition humaine.
Mais
pour
dans
arriver,
la culture bienveillante, et tu me corriges si tu n'es pas d'accord, Pierre, il y a l'authenticité.
Oui.
Si on n'est pas authentique, si on n'est pas sincère dans notre intention, ça ne marchera pas. Là. On réussira pas à instaurer une culture bienveillante qui va avoir un effet positif sur l'engagement. Ça peut fonctionner un temps, en
c'est
fait,
ça.
Mais ça ne durera pas dans le temps. L'effet va se perdre avec le temps quand les gens vont avoir réalisé que c'était pas par un souci sincère de faire en sorte que les employés soient bien traités ou que on prend bien soin d'eux, ils sont heureux, pas juste heureux au travail, mais aussi c'est compétent à travailler dans leur force, etc. Mais au bout du compte, si on le fait pas pour les bonnes raisons, ben ça finit par se voir finalement. Le jupon dépasse.
Absolument.
Est-ce que tu as observé des cas, Pierre, où généralement les gens qui s'engagent dans cette démarche-là, de toute façon, c'est une vraie réflexion authentique, t'sais, comme expert, toi, qu'est-ce que tu observes sur le terrain?
Mais tu peux pas tellement le faire autrement que par l'authenticité, puis tu peux pas le faire autrement qu'avec l'implication des gens et leur participation. T'sais. Fait que c'est bien difficile de tout à coup t'installer comme un chef d'entreprise puis de déclarer bon, ben à partir de maintenant, là, on va tout être gentil les uns avec les autres. T'sais, ça se peut pas. Ça arrivera pas comme ça. Il faut créer un ensemble de conditions, puis il faut que le leadership, il faut aussi que la direction emboîte le pas en vivant, en incarnant ces valeurs-là. T'sais. Alors, c'est pas pensable qu'on va pouvoir faire ça de façon qui ne soit pas authentique. T'sais.
Puis, tu as nommé le sujet des valeurs. C'était un peu le deuxième élément là, composant la culture de bienveillance. Comment tu travailles avec tes clients pour les identifier, ces valeurs-là? Parce que souvent, il y a déjà des valeurs officielles, puis ce n'est pas nécessairement de ces valeurs-là qu'on parle quand on parle de culture, habituellement de bienveillance. On veut surtout savoir un peu, est-ce qu'on parle plutôt des valeurs vécues réellement dans l'organisation? Est-ce que tu les accompagnes là-dedans?
Oui, puis ça peut se rendre toutes sortes de formes selon les organisations, puis les moyens disponibles, puis le temps disponible. Mais tu sais, d'abord, il y a des sondages qui existent. Il y a des sondages sur des valeurs qu'on peut utiliser. On peut utiliser des sondages qui vont donner de bonnes indications. Moi, j'aime bien une approche plutôt plus personnalisée, soit avec des groupes de discussion, des groupes limités. Dans les organisations, on retrouve généralement à peu près partout, à tous les niveaux, des meneurs d'opinion, des meneuses d'opinion qui ont une influence un peu plus grande sur les autres. C'est souvent des gens qui sont là depuis un peu plus longtemps. On regroupe ces gens-là en petits groupes. Ça peut être des mini-groupes de 4, de 5, puis à ce moment-là, on fait des, des mini focus groups autour de ces sujets-là. On va leur demander des choses comme quand vous êtes avec vos amis à l'extérieur, comment parlez-vous de l'entreprise? Quand vous êtes avec votre famille, qu'est-ce que c'est dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous dites de négatif sur l'entreprise? Comment rêvez-vous de l'entreprise? Pourquoi restez-vous dans cette organisation-là? Puis en posant des questions tout autour de la notion de valeur, on finit immanquablement par identifier des valeurs.
Émergentes.
Des valeurs émergentes.
Comme je le disais, là.
Il y a des. Puis parce que c'est important, il faut que les valeurs viennent de là. Il y a des organisations, ça je n'ai jamais fait, mais je connais des organisations qui, suite à ça, ils ont organisé par. Ils avaient identifié dans un cas 4 valeurs principales. Et suite à ça, ils ont formé des groupes d'employés. Des groupes d'employés multidépartementaux à qui ils ont confié à chacun de définir entre eux ce qu'est la valeur puis de créer un événement, une demi-journée où on allait célébrer cette valeur-là dans l'entreprise. Mmh. Alors, chacun des 4 groupes a pris un an cet exercice-là. Puis au bout d'un an, il y a eu 4 demi-journées où tous les employés ont participé à un événement sur, là, je me souviens plus des valeurs, mais c'est sur, je sais pas, la participation ou l'écoute ou peu importe. Et suite à ça, annuellement, ils font une campagne de communication à l'interne sur ces valeurs-là spécifiquement. Ils intègrent ça au processus d'évaluation. Ils continuent à faire la promotion. Il peut y avoir de la formation, il peut y avoir des conférenciers pour faire vivre cette valeur-là. Ça peut pas ne pas être authentique. Parce que si c'est pas authentique, ça meurt, cette affaire-là.
Ça va sonner faux, hein?
Exactement. Mm. Alors, au niveau des valeurs, ça peut se faire de cette façon-là. Moi, si je l'ai fait aussi dans le cadre d'un exercice de planification stratégique, ou après un exercice auprès des employés, soit par sondage ou par mini-groupe ou par rencontre individuelle, au moment de la planification stratégique, bien, il y a tout un segment qui est là-dessus. Et puis
une fois qu'on les a identifiés, qu'on les a fait vivre, hein, parce qu'il faut que ça soit un peu partout après là, dans l'organisation, tu le dis, les évaluations, nous on préconise beaucoup là, de les présenter dès l'arrivée des nouveaux employés aussi pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, de s'assurer que les comportements attendus qui vont avec ces valeurs-là soient bien identifiés, les attentes sont claires et tout ça. Ça bouge hein, à travers le temps. Tantôt tu le disais, la raison d'être, c'est plutôt le dirigeant qui pourrait éventuellement la faire évoluer avec ce qu'il vit, avec ce que l'organisation vit. Mais au niveau des valeurs, c'est beaucoup en évolution parce que chaque employé, chaque personne qui fait partie de cette organisation-là amène son bagage avec lui ou avec elle. Comment on regarde l'évolution des valeurs à travers le temps? Comment on s'assure de faire les réajustements? Est-ce qu'on devrait s'assurer de faire des réajustements à certains points de vue ou les nouveaux arrivants dans l'organisation, les nouveaux employés devraient plutôt se conformer aux valeurs existantes? Qu'est-ce qu'on fait avec ça à travers le temps?
Mais là, je ne suis pas sûr de ça parce que je ne l'ai jamais fait à travers le temps. Je l'ai fait dans des situations où on l'a fait une première fois, mais je ne suis jamais revenu, mettons, 2 ans plus tard pour dire avec le client. Peut-être que toi, tu as des idées sur comment ça pourrait se faire, mais j'imagine qu'on pourrait refaire l'exercice pour assurer que c'est toujours des valeurs qui sont vivantes, qui sont vécues dans l'organisation, je présume. Mm.
Moi, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait être non négociables, des valeurs fortes pour lesquelles on ne serait pas prêt à faire de concessions. Puis je pense que ça doit être communiqué dès le départ à tout le monde et il faut taper sur le clou dans ce temps-là. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui, tu sais, tout évolue dans la vie, puis il y a des
faut se laisser
de la marge de manœuvre.
Quelque part, la culture, c'est les gens qui la composent aussi. Fait que je pense que c'est vrai ce que tu dis, que de toute façon, quand normalement on veut cibler des collaborateurs en fonction de ce qu'on appelle un fit culturel, qu'on veut s'assurer que ça soit en cohésion, pas nécessairement des gens qui sont pareils comme nous, au contraire, mais des gens qui vont amener à l'organisation puis qui vont la pousser plus loin tout en étant en cohérence là, avec ce qui se fait déjà. Mais c'est vrai que si on se laisse pas l'ouverture d'être transformé par ces gens-là, je pense que ça peut devenir problématique pour une organisation.
Oui.
Hein, probablement.
En même temps, c'est un défi parce que on sait que si tu embauches des gens qui sont pas des fits de valeur, tôt ou tard, ça fonctionnera pas. Ils vont soit quitter ou l'organisation va finir par... Les collègues vont se rendre compte que c'est trop un clash, tu sais, puis c'est la raison principale pour laquelle les gens vont finir par quitter. C'est souvent parce qu'il n'y avait pas un bon fit de valeur. Donc, on veut s'assurer quand on embauche les gens de mesurer les valeurs, l'adéquation des valeurs entre le candidat potentiel et l'organisation. Mais en même temps, il faut se laisser cette ouverture-là à laisser la culture évoluer à travers le temps. Fait que c'est un défi intéressant.
Puis, c'est important d'avoir des valeurs pertinentes. Tu sais, si tu demandes à Madame Tout-le-Monde, parle-moi de tes valeurs qui sont les plus importantes pour toi, il y a des grandes chances qu'ils vont avoir 90% des gens qui vont dire « Oh, le respect, la famille, toutes ces affaires-là. » Puis la même en entreprise, oui, c'est ça, le professionnalisme.
L'excellence.
Puis, j'ai rien contre toutes ces belles qualités-là, mais il y a des organisations qui ont identifié des valeurs qui sont beaucoup plus pointues et beaucoup plus pertinentes. Je pense par exemple à Radio-Canada. Radio-Canada a identifié 4 valeurs qui sont très pertinentes à leur métier. La première, c'est la créativité. La deuxième, c'est l'intégrité, on passe aux nouvelles, l'inclusion et la pertinence. La pertinence est une valeur.
Très intéressant. C'est vrai que ça cadre bien, puis c'est pas...
C'est pas une gna-gna. C'est pas comme le professionnalisme, l'intégrité.
Pas dilué. C'est ça.
Chez Desjardins, un autre très, très, très bel exemple, les valeurs de Desjardins, l'argent au service du développement humain. L'intégrité et la rigueur dans l'entreprise coopérative, l'engagement personnel, l'action démocratique et l'intercoopération. Tu ne retrouves pas là, professionnalisme, intégrité, respect. Ce sont des valeurs qui ont été définies, qui sont en ligne avec la mission de l'entreprise, avec sa raison d'être. Et je trouve ça particulièrement intéressant.
Des valeurs qui ont une valeur ajoutée finalement.
Exactement.
Plutôt que de ce qui est un peu attendu, de ce qui est un peu pris pour acquis. Personne ne va dire qu'on ne veut pas la valeur de respect dans son organisation, finalement.
Ça peut se traduire de différentes façons. Il y a une organisation formidable à Chambly, une organisation qui fabrique des petits contenants pour pilules environnementaux. Là. Et c'est une propriétaire qui a lancé cette organisation-là, puis je lui demandais « Qu'est-ce que c'est les valeurs de ton organisation? » Et elle l'a complètement personnalisé. Puis elle me disait « Les valeurs dans notre organisation, c'est de transmettre sa curiosité de la vie, sa zénitude, afin que tous aient l'opportunité de s'épanouir dans un milieu respectueux et inspirant pour enrichir l'humanité. »
C'est beau.
T'sais, ça commence à voler haut. Ça vole haut, tu sais. Mais je peux vous dire que cette personne-là l'incarne complètement dans tout ce qu'elle fait. Puis son personnel est totalement en harmonie avec ça.
Il y a de la cohérence.
C'est cohérent, cette affaire-là, tu sais. Mais c'est vrai parce que c'est vécu. Si c'était pas vécu, c'est un peu flyé, là.
C'est drôle. J'allais justement te relancer là-dessus parce que chez Ascension, vous faites du recrutement de hauts dirigeants.
Oui.
Donc, j'imagine que quand vous faites ça, vous portez une attention particulière à avoir des leaders qui peuvent peut-être transformer l'organisation un peu, mais aussi qui vont incarner les valeurs un peu plus non négociables comme.
C'est difficile. Oui et non. Parce que, d'une part, on n'est pas là pour décider des valeurs du client. Alors, si l'entreprise n'a pas bien défini ses propres valeurs, ben tu travailles avec quoi est-ce que tu travailles, c'est difficile. Fait que ce que nous faisons, puis qui est un petit peu différent, c'est que nous portons une attention particulière à la culture et aux valeurs de l'individu. Quel type de culture? Fait qu'on a des questions dans nos entrevues. Parce que nos entrevues, surtout là, on a une méthodologie en deux étapes. Là, on fait deux entrevues avec chaque candidat. En première entrevue, on fait une série de questions sur la culture organisationnelle. On fait ensuite de ça une série de questions aussi sur les valeurs. Et on soumet ça à l'organisation. Puis c'est à l'organisation de voir s'il y a un fit ou pas. Parce qu'on n'arrive pas nécessairement avec une analyse. Pierre n'arrive pas avec analyse pour dire voici comment je définis ma culture organisationnelle puis mes valeurs. Fait qu'on le fait en essayant de voir avec les candidats et les candidates leur culture organisationnelle à eux et leurs valeurs à eux. Avec des questions un peu semblables à celles que j'évoquais tantôt. Puis, on le met dans notre dossier de candidature. Puis, quand on le soumet, bien, on se dit, ce candidat-là, cette candidate-là, ça, c'est les valeurs.
Mais vous le mesurez aussi.
On le mesure dans ce sens-là. Ouais, dans le sens où on a un questionnaire, puis on a exactement.
Parfait. Est-ce qu'il y a des contextes organisationnels dans lesquels tu trouves que c'est plus difficile de travailler une culture de bienveillance?
C'est certain, il y a deux contextes qui me viennent tout de suite à l'idée. D'abord, les très grandes organisations. C'est très difficile parce que tu as des machines où tu as beaucoup de niveaux hiérarchiques, un niveau de cadre intermédiaire qui est important, qui est parfois très sclérosant au niveau du changement. Tu vas retrouver des fois dans la haute direction une volonté de changement, de l'audace, de l'imagination, du courage, et tu vas retrouver ça au haut de l'échelle puis au tout bas de l'échelle. Au bas de l'échelle, les gens qui sont avec les clients, là, de se retrouver des gens qui ont de l'initiative, qui ont du courage, qui ont des idées, qui vont de l'avant, qui amènent du changement à leur échelle. Puis tu vois, puis très souvent, là, dans ta couche intermédiaire de gestionnaire, vous avez un paquet de monde qui sont souvent une espèce de courroie d'entraînement entre les deux niveaux. Là, il y a de la résistance parce qu'il y a beaucoup de carriérisme. Ces gens-là, ils sont là pour des promotions, pour des évaluations et tout et tout. Et c'est très difficile d'y implanter leur autorité et leur pouvoir, de les amener à laisser aller un peu de leur pouvoir, laisser aller un peu de leur autorité, puis s'ouvrir à la bienveillance, puis de l'écoute, puis etc.
Il y a ça.
Puis il y a la toute petite entreprise qui est dirigée par une propriétaire fondatrice. La propriétaire fondatrice est là depuis 30 ans. Elle a ouvert un garage il y a 30 ans. Puis là, ça va bien. Puis elle change des pneus en hiver. Puis elle, ça fait de l'argent, puis elle est contente. C'est très difficile de dire, écoute, on va retravailler ton équipe, on va mettre ensemble, on va définir une raison d'être. Les gens sont plus là pour vendre des pneus, ils sont là pour assurer la sécurité. Quand un auto rentre, là, il va y avoir des enfants là-dedans, puis on va s'assurer qu'en hiver, il n'y aura pas d'accident. On va leur vendre des essuie-glaces, tu sais. Puis on n'est plus dans la vente de pneus, on donne un service de sécurité. C'est tough, ça.
Fait qu'il faut que ça... Il faut que ça parte du dirigeant aussi, en quelque part. Hein? Ça
Absolument.
Doit être une. Je ne sais pas si toi, tu le constates là, dans tes mandats, mais s'il n'y a pas une volonté du dirigeant, c'est impossible, là, à mettre en place. Hein?
Puis plus qu'une volonté théorique, il faut que le dirigeant accepte de changer. Mm-hmm. C'est pas simple non plus, là. D'être moins directif, d'être plus un coach, mm-hmm. d'être plus à l'écoute,
de donner plus
d'être plus attentif, de donner de l'autonomie. Quand ça fait 25-30 ans que tu fonctionnes d'une certaine façon avec succès, pourquoi est-ce que je changerais?
Mm-hmm. Tu parlais tantôt des gestionnaires intermédiaires. J'ai l'impression qu'ils sont souvent aussi un peu pris en clair des l'écosse.
C'est ça.
Je pense que ça doit être particulièrement difficile pour... Tu sais, c'est souvent à eux qu'on demande le plus, puis c'est difficile de se positionner un peu quand tu as des attentes qui viennent te...
Nous, on a constaté, la plupart de nos clients sont dans la petite, moyenne organisation. On en a quelques-uns qui sont dans la un peu plus grande. Puis, ce qu'on constate, c'est ça, hein, dans la un peu plus grande, la direction a beau vouloir mettre en place ou avoir une intention de changer un peu la culture. La machine est tellement lourde, c'est tellement devenu bureaucratique aussi comme processus. On a tellement mis de contrôle en place à travers les années que ça devient très difficile de changer une culture organisationnelle dans ce contexte-là. Les gestionnaires que moi, je rencontre dans ces organisations-là sont brûlés. Mm-hmm. Et les employés, à la base, sont complètement démobilisés parce que c'est devenu aliénant le travail qu'ils font. On a découpé tout en petits morceaux, on leur a mis des procédures, des processus, des contrôles à pu finir, puis ils ont complètement perdu le sens de ce qu'ils font, puis ils n'ont aucune latitude d'action. Fait que ça devient vraiment plate là, comme travail. Et toutes les décisions à prendre au quotidien sont remontées aux gestionnaires de la couche intermédiaire, qui sont le goulot d'étranglement, qui, eux, en peuvent plus. Ils courent sans arrêt, puis quand ils prennent le temps de s'arrêter, mais là, ils se demandent, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça au quotidien? S'épuiser comme ça, rentrer chez nous brûlé, puis avoir l'impression qu'on fait ça, pourquoi? C'est comme trois solitudes à l'intérieur de ces grandes organisations-là. On parle souvent des deux solitudes, là, mais j'ai l'impression que la direction, les gestionnaires intermédiaires et les employés, le reste des employés vivent des réalités tellement différentes dans ces organisations-là que ça devient vraiment difficile de les accompagner dans un changement, une transformation de cette nature-là.
Il y a des exemples que je trouve particulièrement inspirants qu'on retrouve dans des entreprises d'ici. Un de ces exemples-là, c'est la société Rona. Mmh. Rona a comme raison d'être de dire « aider les gens » à aimer là où ils vivent. Quand un client rentre chez Rona, là, on n'est pas là pour lui vendre un évier ou lui vendre un lavabo. On est là pour l'aider à aimer la cuisine dans laquelle elle va travailler ou il va travailler. On est là pour l'aider à aimer sa salle de bain. Ça change bien des perspectives. D'autres raisons d'être inspirantes, à mon avis, chez Solotech. Solotech, ils louent des équipements pour les gens qui font des spectacles. C'est une compagnie de location. Parce que ça, en soi, il n'y a rien de bien extraordinaire. Mais la culture puis la raison d'être qui ont été développer puis que les gens vivent, c'est l'expérience amplifiée. C'est d'abord de collaborer avec les créateurs pour concrétiser leur vision. Fait qu'on n'est pas là pour louer des speakers, puis louer des spots, puis tout ça. On est là comme pour les aider, les créateurs, à créer quelque chose de formidable. La compagnie Marmen, qui construit des, entre autres, des éoliennes, puis tout ça. Marmen, c'est bâtir le monde de demain.
Ça donne un peu plus le goût de travailler, hein, au quotidien, quand les raisons d'être des organisations comme ça sont inspirantes et qu'on a l'impression de faire autre chose que ce qu'on fait au quotidien, qu'on contribue à quelque chose de plus grand que ce qui vraiment représente notre quotidien.
Il y en a qui sont bien connus aussi à un niveau international. Guinness, les livres de records Guinness, pas la bière, genre, les livres de records. Nous inspirons les gens, les individus, les familles, les écoles, les équipes et les groupes et les communautés de tous les âges. On est là pour inspirer les gens à se dépasser. On n'est pas là pour imprimer des livres. Enfin, cela, toutes sortes d'expériences. Une chose ici qui est importante à dire, c'est que dans certains cas, si on reprend le garage du coin ou le dépanneur, c'est parfois difficile de trouver une raison d'être inspirante. Oui, ça existe toujours, il y a moyen d'y travailler, mais une des façons de donner qui peut contribuer à l'engagement des employés, c'est d'adopter une cause caritative, puis que ça devient tout à coup une cause auquel les employés s'identifient. Et sans que ça soit comme tel une raison d'être d'entreprise, ça peut tout à coup donner une certaine aura à l'organisation puis susciter l'engagement des gens.
J'ai vu des organisations aussi, des fois, qui sans nécessairement adopter une cause ou qui en adoptaient, mais qui aussi invitaient les employés à eux présenter des causes auxquelles ils adhéraient, puis par différents moyens, allaient soutenir les causes qui tenaient à cœur les employés. Fait que, tu sais, par exemple, s'il y a un employé qui a un enfant malade ou ce genre de choses-là, mais souvent, l'organisation devenait un facilitateur pour appuyer des bonnes causes. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce que là, c'est la même chose, mais ça peut être aussi émergent dans les organisations, chez les employés.
Mais ça vient démontrer aussi les valeurs de l'organisation. Quand on parlait de bienveillance, de vouloir prendre soin, de se préoccuper des autres. Hein,
c'est vrai.
De se préoccuper de la santé, par exemple, ou... des enfants, de la famille, peu importe autre cause, c'est qu'on a à cœur le bien-être d'autrui. Donc, je pense que c'est une belle façon de démontrer des valeurs de bienveillance également. Tu nous as parlé aussi de gouvernance dans le contexte de la culture de bienveillance. Est-ce que tu considères qu'il y a des modèles de gouvernance qui sont plus appropriés pour mettre en œuvre une culture de bienveillance ou au contraire des modèles de gouvernance dans lesquels c'est peut-être un peu plus complexe?
Bien, c'est sûr que à partir du moment où on a identifié une raison d'être et des valeurs, maintenant, il faut que ça se décline. Il y a plusieurs façons où ça se décline, la gouvernance, ça se décline par les politiques, les bénéfices, les programmes, etc. La gouvernance, c'est très important, encore une fois, particulièrement dans le contexte de ce qu'on vit aujourd'hui, avec une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée, qui cherche un sens au travail et puis qui veut s'engager. Il va sans dire que, puis il n'y a peut-être pas de modèle universel qui correspond, qui est idéal pour toutes les circonstances. Il y a des entreprises qui se prêtent plus ou moins à certains modèles. Mais il y a des modèles émergents actuellement qui sont très intéressants. Toute la notion d'holocratie actuellement est un modèle qui prend de plus en plus de place. On voit aussi de plus en plus de groupes autogérés.
Tu peux juste définir holocratie? Je sais que Joël, tu comprends très bien ce que c'est, mais pour les auditeurs...
C'est des structures plus planes où la structure d'autorité est répartie ou est partagée un peu partout dans l'organisation. Il n'existe plus cette structure pyramidale d'autorité. On forme des équipes.
C'est des cercles.
C'est des cercles. Ouais. Des équipes qui sont un peu autogérées jusqu'à un certain point, puis à qui on confie une mission, et puis qui vont prendre des décisions par elles-mêmes sur la façon d'accomplir leur mission.
C'est un très beau modèle de gestion, en fait, d'entreprise qui permet davantage d'autonomie. Hein, on voit souvent... chez nos clients, les dirigeants qui vont trouver que leurs employés ne prennent pas suffisamment responsabilité, qui prennent pas suffisamment d'initiatives, se rendent peut-être pas tout le temps compte que c'est souvent le modèle de gestion qui est en place qui les limite à prendre ces initiatives-là et à faire preuve de davantage d'autonomie. Ces modèles-là permettent davantage d'autonomie, puis c'est tellement important au niveau de l'engagement parce que l'autonomie, c'est l'un des trois besoins fondamentaux de l'être humain au travail, pour être heureux au travail puis s'accomplir. Il y a l'autonomie, il y a le sentiment de compétence, puis il y a l'affiliation sociale. Donc, c'est un des trois, là, il n'y en a pas 25, il y en a trois. Et je pense que ces modèles-là où on redonne davantage de pouvoir à l'ensemble des employés. Premièrement, c'est plus sain pour les dirigeants, les gestionnaires, étant donné qu'on se sent souvent comme un goulot d'étranglement avec beaucoup trop de poids sur nos épaules quand on est dans ce rôle-là de dirigeant. Et c'est beaucoup plus gratifiant pour les employés également parce que ça élargit leur scope, si je peux dire en bon français, la portée. Le type de tâches, de responsabilités qu'ils sont en mesure de prendre au quotidien, ça enrichit vraiment le travail, ça donne beaucoup plus de sens aussi au travail. Donc, je suis bien contente que tu aies abordé le sujet. ça paraît pas, là, ça me passionne beaucoup. Ouais. Je te laisse poursuivre avec les modèles différents. Donc, tu me disais, la classique, c'en est un.
On est habitué à la structure pyramidale traditionnelle. Mm-hmm. Il y a encore des contextes où ça s'applique. Mais bien sûr, si dans un contexte pyramidal traditionnel, on peut aussi y insuffler des valeurs puis des façons de faire puis des comportements qui vont faire que les gens vont retrouver un certain bien-être dans l'organisation puis vont être engagés. Faut pas penser qu'il faut nécessairement s'en aller vers réinventer tout. Mais moi, je pense qu'il faut y réfléchir. Mm-hmm. La réflexion là-dessus va peut-être nous amener à responsabiliser les gens, les amener à plus d'engagement de cette façon-là. Il y avait aussi des modèles qu'on voit moins souvent, la structure qui a été développée ici par le professeur Mintzberg, où il y a une structure où tu as essentiellement deux groupes opérationnels, les gens des revenus, les gens des dépenses, puis tous les autres sont en position de staff par rapport à ça. C'est un modèle qui est moins répandu, puis je ne suis pas sûr que ça correspond aujourd'hui aussi bien aux besoins puis aux attentes de nos cohortes actuelles de nouveaux employés. Mais il s'agit soit d'humaniser notre structure traditionnelle pyramidale, mais je pense qu'il faut qu'on explore. On explore dans la mesure du possible les modèles de groupes autogérés, de structures plates, d'entreprises libérées, d'holocratie. Enfin, ça prend différents noms, mais essentiellement, on forme des cercles qu'on responsabilise.
J'ai envie de te relancer sur, tu disais des fois, même dans des entreprises plus traditionnelles, ça peut s'illustrer par des comportements qu'on va venir changer de temps en temps. Puis je sais que tu l'as raconté dans un autre podcast, mais j'ai envie de t'entendre raconter l'histoire du meeting. Je suis sûre que tu sais à quoi je fais référence.
Oui, ben, il y en a plusieurs, tu sais, encore la semaine. C'est que, revenons à notre modèle. On dit qu'au départ, la base, c'est on travaille sur la raison d'être et sur les valeurs. De là, on développe un mode, une gouvernance en conséquence de cela. On développe des programmes, on pourrait revenir là-dessus, des programmes, des bénéfices, des avantages, des politiques qui vont un peu structurer la façon dont les choses se font. Mais ultimement, ce qui est le plus important, ce sont les comportements des gens dans l'organisation. Les comportements, c'est la plus grande manifestation de la culture organisationnelle. Puis des fois, on peut faire une transformation de culture organisationnelle en travaillant à partir des comportements. Il y a un exemple, je disais récemment, une étude qui a été faite chez Google il y a quelques années où on a étudié presque 180 équipes de travail pour essayer de voir quels étaient les facteurs qui caractérisaient les équipes qui se distinguaient par leur productivité, par leur efficacité. Puis ce qu'on a découvert, c'est très intéressant, c'est que les équipes les plus performantes, c'est pas nécessairement celles où les gens avaient entre eux le plus d'affinités, le même âge, les mêmes valeurs, ou qui se fréquentaient en dehors du travail. Les équipes les plus performantes, c'était celles où il y avait de la gentillesse. Peu importe que les gens ne se fréquentent pas à l'intérieur du travail, peu importe qu'il n'y ait pas nécessairement beaucoup d'amitié, enfin, ce qui était important pour l'efficacité du fonctionnement, c'était la notion de gentillesse. Ça donne une idée, une importance d'un comportement. Je me souviens récemment, j'étais avec une collègue, puis elle me disait, on parlait de culture bienveillante et tout ça, puis elle me dit, moi, je me souviens d'être entré dans une organisation où les gens ne se parlaient pas le matin. Ils arrivaient, puis ils s'en allaient tous au bureau, à leur bureau de travail, ils ne parlaient pas à personne, puis ils se mettaient au boulot, puis ça finissait là. Puis elle, quand elle est arrivée là, elle a instauré le bonjour le matin. Et elle s'est dit, à partir de maintenant, on va se dire bonjour quand on se voit le matin. Ben, elle a fait des réunions, puis on se dit bonjour le matin. Puis ça a changé tout le temps. Les gens se sont mis à se parler, puis ça a créé toute une autre atmosphère. Moi, je me souviens, j'avais été engagé par une société pour faire un redressement dans une organisation. Il y avait l'organisation était structurée selon deux silos, si vous voulez. Puis il y avait un silo qui fonctionnait pas bien. Et je suis entré là, puis je me souviens, moi, le premier meeting où je me suis assisté avec l'équipe de direction de ce silo-là, c'était épouvantable, ça bitchait contre l'autre gang. C'était des pas bons, c'était des ci, puis c'était des ça, puis il était pas... Puis tous les malheurs du monde, tous les malheurs de l'organisation leur étaient attribuables, puis c'était des pourris, puis c'était frère ce qu'ils se disaient, puis c'était personnalisé. Fait que c'était mon première rencontre avec eux, puis là, je les ai écoutés, mais on va établir quelque chose tout de suite en partant, là. Dans mes réunions, là, vous pouvez parler en mal de qui vous voulez, dans la mesure où la personne est dans la pièce. Mais à partir de maintenant, je ne tolérerai plus qu'on parle en mal de personne d'autre qui n'est pas dans la pièce avec nous. Et ça a complètement changé le ton des réunions. Puis moi, je pense que ça a contribué au succès du projet en partie. En tout cas, ça a certainement facilité. On s'est regardé pas mal plus en pleine face. On s'est dit les vraies affaires au lieu de toujours blâmer les autres. J'ai un autre exemple, une société, un type qui est rentré dans une société, une coopérative dans les cantons de l'Est. Et il y avait un climat qui était extrêmement toxique. Le monde s'est crié après. C'était vraiment, il y avait un malaise de dirigeant. Il y avait eu un problème de leadership auparavant. Et tout le monde bitchait contre tout le monde. C'était vraiment désagréable comme environnement. Et il arrivait en début d'année, là, lui. Fait qu'à un moment donné, il faisait une réunion de début d'année. Là, il a déclaré solennellement à tout le monde dans la pièce, je déclare officiellement que cette année, c'est l'année femme ta gueule. Et l'idée était, on va se mettre à s'écouter. Et là, il faut qu'on apprenne à se taire puis à s'écouter les uns les autres. Puis le phénomène, c'est que dans les réunions, là, c'était la blague, c'était le running gag là, dans les meetings. S'il y en avait un qui se mettait à parler fort ou qui était pas, il y avait trois ou quelques aides, femme ta gueule, femme ta gueule. Puis ça avait contribué. La gentillesse, l'écoute, la collaboration, l'empathie, les comportements, c'est à la fois la principale manifestation de la culture organisationnelle, mais à mon sens aussi, c'est parfois la première façon de transformer. Si on transforme quelques comportements fondamentaux, on n'a pas besoin de passer à travers toute la grosse analyse compliquée, les démarches élevées puis complexes. Si on était capable de juste changer deux, trois comportements, on est capable de tout transformer la culture.
Moi, j'ai adoré quand tu as dit tantôt en citant l'exemple de Google.
Oui.
Gentillesse égale productivité. Mais ça, je pense que ça vaut la peine de le répéter parce que c'est pas la perception hein, qu'on a dans le milieu des affaires. On a l'impression que le fait d'être gentil va plutôt faire l'effet inverse, qu'on va, je sais pas, on va perdre du temps ou on va se faire manger la laine sur le dos, etc. Mais là, ils ont fait l'étude et ils ont démontré le contraire. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Au contraire, la gentillesse amène la productivité. Quand même un mythe important à défaire.
Il existe un autre exemple qui est aussi très, très intéressant. Je le cherche dans mes notes au même moment où je vous parle. C'est une étude qui a été faite il y a quelques années auprès d'organisations qui ont vécu des graves restructurations. Tu sais, vous mettez une fusion puis d'entreprise, puis à un moment donné, tu fais une grosse restructuration, puis tu dois laisser aller une grande partie de ta force de travail. Ils ont étudié les effets de la productivité après la réorganisation. Et ils ont constaté que dans 85 % des cas, les employés qui restent en place après une réorganisation majeure, dans 85 % des cas, la productivité diminue. Il y a une certaine déprime, il y a une désaffectation, il y a un désengagement. Par ailleurs, il y a 15 % des organisations où la productivité des employés qui sont restés après où leur productivité a augmenté. Et je cherche la citation ici, fait que je vais vous la rappeler de mémoire. Ce qu'ils ont démontré, c'est que dans les organisations qui, suite à une réorganisation, ont fait preuve de compassion, qui ont fait preuve de tolérance, qui ont fait preuve de souplesse et d'écoute, sont les organisations où la productivité est remontée le plus rapidement. Dans un contexte difficile, c'est pas à coup de bâton ou à coup de pied là où vous pensez. Mm-hmm. C'est vraiment par la compassion puis l'écoute qu'on est capable de recréer un contexte puis un environnement qui va susciter L'engagement.
L'engagement et on par toujours conséquent, ben oui, parce que c'est par l'engagement qu'on est capable d'aller chercher le retour sur investissement, autant humain pour l'employé que pour l'organisation. Je pense que c'est important de le souligner.
Mais d'ailleurs, tu as écrit brillamment là-dessus. Là, j'encourage les gens à lire ton e-book.
Puis d'ailleurs, pendant qu'on est... c'est le moment des plugs. Donc, Pierre, justement, bientôt le 20 novembre, tu donneras une conférence à PME Montréal sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, là, les générations au travail, les PME. Tu vas être accompagné d'Audriane Turcot, avec qui tu as déjà fait un mandat, si je ne m'abuse.
Oui.
Et dans le fond, on invite les gens à venir. L'atelier s'appelle « Mobiliser les milléniaux. Passez-vous à côté de ce qu'ils recherchent ». Donc, on a bien hâte de t'entendre. Personnellement, je vais aller t'écouter. Moi aussi.
Mais merci, merci.
Mais toi aussi, Joël, hein, tu vas venir.
On va y aller en gang, tout le monde. On vous invite à venir écouter Pierre. J'en profite pour te remercier vraiment d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir très, très intéressant comme discussion. J'ai adoré ça. Merci, Sarah, encore une fois. Merci à Charles, notre expert en podcast. Et Sarah, si les gens veulent nous trouver, où est-ce qu'ils font ça?
Donc, le site Internet de Via Conseil, première place où aller. On publie les émissions qu'on fait, mais aussi on sort des articles des fois. Puis évidemment, sur les différentes plateformes, donc soit par les plateformes de balado, iTunes, Spotify, Google Play, même YouTube. Donc, on est un peu partout. Suivez-nous.
Et accordez-nous des étoiles, des 5 étoiles, si vous avez la chance, ça nous aide pour le référencement. Si vous avez des idées de sujets pour lesquels vous aimeriez bien qu'on discute lors de nos épisodes avec nos invités, écrivez-nous, laissez-nous un commentaire sur notre site web. Ça nous ferait vraiment plaisir d'aborder ces sujets-là avec vous. Et Pierre, si on a envie de te suivre, de te lire, de te contacter, où est-ce qu'on fait ça?
Ben, des fois, le plus simple, c'est d'aller sur LinkedIn. Vous allez retrouver là mes coordonnées, vous pouvez communiquer avec moi ou encore sur le site de ascens.ca, ascens.ca.
On va mettre les liens dans la description de cet épisode. Les gens peuvent juste cliquer et te retrouver
facilement.
Ici.
Excellent. Ouais. Et moi, c'est à mon tour de te remercier. C'était bien agréable.
Merci.
Merci.
Bye.
À la prochaine.
À la prochaine.